Chine Hebdo, Mathieu Jolivet sur BFM Business.
Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle heure de Chine Hebdo. Au programme, dans un quart d'heure, vous entendrez le souffle entrepreneurial d'une jeune Française qui est partie vivre en Chine il y a un an et demi. Ce sera la patronne de la semaine. Dans une demi-heure, on s'attardera sur les projets d'investissement chinois en Afrique, notamment dans le domaine de l'électricité. Vous allez voir, c'est passionnant. Et puis bien sûr, durant toute cette heure, vous retrouverez vos chroniqueurs pour tout savoir de ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux en Chine, pour prendre le pouls du business entre l'Europe et la Chine, ou encore pour étudier la relation géostratégique qu'entretient Pékin avec un pays tiers. Ça, c'est en fin d'émission. Allez, c'est parti. Allez, comme chaque semaine, on file à Shanghai prendre le pouls de la Chine sur ses réseaux sociaux.
BFM Business, Fred in China.
Fred in China, c'est votre chronique digitale unique. Chaque semaine, le patron de Fred et Farid Group, Fred Rayard, avec ses équipes depuis Shanghai, a les outils, les data scientifiques entre les mains pour nous dire ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux en Chine. Il arrive à en dégager des grandes leçons de stratégie digitale, des grandes leçons sociétales en Chine. Bonjour Fred.
Bonjour Mathieu.
Allez, votre hot topic de la semaine.
Oui, Mathieu, alors c'est le dernier épisode de Fred in China avant la rentrée en septembre. Alors, le hot topic cette semaine, c'est le championnat d'Europe de football qui a beaucoup touché les Chinois. De Tier 1 City à Tier 5 City, donc toute la Chine, tout le monde s'intéresse au football. Et oui, on peut dire que c'est le sport national, en tout cas du point de vue de l'amour que les Chinois lui portent. Les Chinois adorent le football, se battent pour avoir des tickets, déposent des jours de vacances pour voir les matchs à la télévision, négocier avec leur patron, etc. Les billets au marché noir s'échangent à des prix, à des sommes mirobolantes. Et donc, évidemment, à travers la télévision, à travers l'Internet, les Chinois ont suivi ce championnat d'Europe. Et donc, on en est déjà à 2,8 milliards de médias impressions sur la toile pour le match France-Islande. Donc, c'était colossal. Et cela a beaucoup, l'équipe islandaise a beaucoup séduit les Chinois, mais aussi a posé beaucoup de questions. Parce que les Chinois ont découvert à cette occasion que l'Islande, ce pays, avait uniquement 330 000 habitants. Donc c'est dérisoire pour eux. Vous savez qu'une ville comme Shanghai, c'est 25 millions d'habitants. Et donc ils n'ont pas compris, ils ont beaucoup admiré, mais ils n'ont pas compris comment un si petit pays avec si peu de gens pouvait aller aussi loin dans le championnat et perdre, mais avec beaucoup d'honneur face à la France. Et donc ils n'ont pas compris comment ce tout petit pays pouvait autant performer, comment eux, les Chinois avec 1,5 milliard de gens, n'arrivaient pas à performer dans le football international. Donc beaucoup de questions sur leur équipe. Est-ce que leurs joueurs travaillent vraiment, en fait? C'est-à-dire qu'ils se comportent comme des célébrités, ils épousent des célébrités, ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont très connus, mais finalement, est-ce qu'ils travaillent vraiment, est-ce qu'ils travaillent pour mettre cette équipe chinoise au niveau international? Et on sait que Beijing pousse beaucoup pour développer le football en Chine. On a même vu Xi Jinping shooter dans un ballon et déclencher donc le lendemain la construction de centaines de stades dans toute la Chine. On sait que Beijing prend ça au sérieux, les Chinois prennent ça au sérieux, et donc ils ne comprennent pas. Voilà, donc beaucoup de questions sur l'équipe chinoise, donc relatif au score de cette équipe islandaise. Voilà, et puis aussi beaucoup de Chinois qui se sont intéressés du coup à l'Islande, qui ont découvert ce pays, et on peut très facilement imaginer que cela va déclencher une augmentation du tourisme massivement de la Chine vers l'Islande très prochainement.
Allez, on continue Fred avec votre hot brand de la semaine.
Oui Mathieu, alors la hot brand cette semaine, c'est Ant Financial. Ant comme la fourmi. Cela appartient à Alibaba, et Ant Financial a fait plus de 40 millions de médias impressions sur Sina Weibo, avec une expérience un petit peu à l'instar de ce qu'avait fait Google. Vous vous rappelez, cette année on avait parlé AlphaGo, un logiciel de Google qui jouait au jeu de Go, s'était battu contre des humains, et AlphaGo avait gagné contre les meilleurs joueurs de jeux de Go, ce qui avait fait beaucoup de publicité pour l'intelligence artificielle d'une façon générale, et aussi pour Google en Chine. Voilà. Et cette fois-ci, donc, Alibaba, à travers Ant Financial, a fait un logiciel de reconnaissance faciale, parce que la reconnaissance faciale va être très importante dans le banking. Vous savez que WeBank avait lancé un logiciel de reconnaissance faciale pour accorder les prêts cette année. Et donc, pour se faire connaître, ils ont lancé ce software qui reconnaît les visages. Et donc, l'expérience est très simple. C'est une battle encore entre machines et humains. Ils ont invité un humain censé être très intelligent parce qu'il avait gagné Super Brain, qui est un TV show chinois. Ils l'ont mis face à 150 visages. pendant 20 minutes, puis une personne est rentrée dans la pièce, il devait dire laquelle, quelle personne c'était parmi ces 150 personnes. L'humain a gagné, la machine aussi. Deuxième épreuve, même chose, mais avec 300 visages. Donc l'humain rentre, il est exposé à 300 visages pendant 20 minutes, puis une personne rentre dans la pièce et il doit dire laquelle de ces 300 personnes est cette personne dans la salle. L'humain a gagné, la machine aussi. Et donc pour complexifier l'expérience, ils ont mis ensuite pour cette troisième épreuve des portraits non pas d'humains adultes, mais d'humains enfants. Et donc notre héros national a donc observé ses enfants pendant 20 minutes, puis un adulte est rentré dans la pièce et il a dû reconnaître et dire lequel de ses enfants était cet adulte avant, il y a quelques années. L'humain a trouvé et pas la machine. Ça veut dire que le logiciel, le software de Ant Financial ne l'a pas reconnu. Il s'est fait battre par l'humain. Donc, beaucoup de sentiments partagés en fait, parce que à la fois une grande joie quand même de la part de beaucoup de gens parce que l'humain a été supérieur à la machine cette fois, ce qui est donc rassurant d'une certaine façon, et en même temps une petite pointe d'amertume puisque la technologie chinoise n'a pas réussi cette fois-ci à battre l'humain, alors que la technologie américaine avait réussi pour le jeu de Go à battre l'humain, Mathieu.
Allez, on termine, Fred, avec votre hot post de la semaine.
Oui, Mathieu, alors le hot post cette semaine est à propos des enseignes chinoises. Vous avez de la typographie des enseignes, des boutiques chinoises. Cela a fait donc 100 000 vues sur WeChat, c'est le maximum qu'on peut compter, vous savez. Donc ça fait c'est un grand sujet. Et c'est en fait un KOL qui a critiqué les enseignes chinoises des magasins et cette espèce de brouhaha graphique avec très très in your face, très lumineux, avec de la typo énorme, avec des enseignes rouges, jaunes, très agressives, comme on peut voir beaucoup en Chine, avec une enseigne qui touche une autre enseigne, etc., avec une espèce de... Et toute la ville entière est envahie par cette typographie chinoise très commerçante et très agressive. Et donc ce KOL a critiqué ça en disant que c'était pas bien, que c'était un très faible niveau graphique, que ça manquait de goût, que c'était pas bien, c'était beaucoup moins bien qu'en Occident, etc. Il a été plutôt suivi, en fait, par la jeunesse, on va dire, éduquée, urbaine, sur Internet, etc., qui comprend le propos et qui comprend qu'effectivement, oui, on pourrait beaucoup améliorer l'esthétique de ces enseignes, mais aussi, il a été très critiqué, on va dire à moitié-moitié, par toute une partie de la population qui l'a très mal pris en disant, mais non, ce que tu critiques en ce moment, c'est la culture chinoise, c'est notre esthétique, c'est notre culture, c'est comme ça qu'on fait les choses, on aime ce brouhaha, on aime ce chaos, on aime ces couleurs bold, on aime ce rouge, ce jaune et cette typographie, ça fait partie de notre culture, et cette critique, ce n'est pas une critique sur le graphisme, c'est une critique sur la culture chinoise, et donc, effectivement, très mal pris par une autre partie de la population. Voilà, c'était le hot post cette semaine, Mathieu.
Merci beaucoup, Fred. On vous souhaite un très bel été à toute l'équipe de Fred in China, et on vous retrouve bien sûr pour de magnifiques post de la Chine, pour savoir ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux à partir du premier week-end de septembre. Au revoir, Fred.
Merci, Mathieu.
Et restez avec nous tout de suite, votre éditrice Faye.
Chine Hebdo, le monde selon Faye.
Ce monde, c'est le regard aiguisé de Faye qui dirige les éditions Hachette à Pékin et qui chaque semaine nous livre une vision en général culturelle, qui fait un pont culturel entre la France et la Chine. Bonjour Faye, cette semaine, de quoi est-ce que vous voulez nous parler ?
De Yingke, I-N-G-K-E-E. En chinois, c'est Yingke. C'est une application pour les smartphones qui diffuse ce que vous filmez en live. Les internautes peuvent vous voir en temps réel. C'est une sorte de happening self-media. Depuis moins d'un an, ça cartonne en Chine. Il y a plus de 100 millions de téléchargements. C'est le dernier phénomène média à la mode après Weibo et WeChat.
D'accord, et qu'est-ce qu'on peut y voir dans ces chaînes personnelles, individuelles ?
Alors, on voit tout et n'importe quoi. Le plus courant, c'est une jolie fille ou un beau garçon en gros plan qui prend la pose, montre son meilleur profil pour papoter, chanter ou séduire le public. C'est pas brillant, mais ça marche. Il y a aussi des concerts, des événements sportifs, des ventes privées, des TV shows ou des morceaux de vie de stars au cinéma.
Du succès donc, mais Faye, comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec ça ?
Alors, Mathieu, on vit dans une drôle d'époque où toute une histoire de communication, les social media, la culture des images, le besoin de parler de soi. C'est pour la même raison que Facebook, Twitter ou Instagram marchent. On a besoin de se montrer, on a besoin de voir la vie des autres, et on est attiré par la beauté, même si c'est de fausses beautés. Et ces façades attirent les gens sur le web, comme des mouches prises dans la grande toile. Et quand on est prisonnière, on ne peut faire rien d'autre que consommer. Par exemple, les acteurs ou présentateurs en face de son portable se font offrir des fleurs virtuelles. des bijoux virtuels, des voitures virtuelles, même des diamants virtuels. Ensuite, ces objets virtuels, on peut les changer en yuan sur le compte WeChat. Certaines stars de cinéma peuvent même gagner 600 000 yuan en 2 heures. Soit à peu près 85 000 euros. Mais, c'est une pure folie.
Ouais, mais est-ce que, Faye, vous y voyez-vous une opportunité de business quand même intéressante?
Oui, Mathieu, ça peut être le cas dans certaines déclinaisons du système, car Inke peut se mélanger avec les différents métiers ou business. Imagine, on associe Inke avec des sports, Inke plus communication de l'entreprise. Le nouveau a fait une très belle opération. Inke plus musicienne, Inke plus Amazon ou commerce en ligne, Inke plus les stations de télé ou radio en live show, Inke, dans le meilleur cas, plus la diffusion de la culture ou du savoir. Par exemple, il y a une vieille dame de 80-90 ans diffuse en live ses expériences de vie aux jeunes générations. Donc dans tous les cas, oui, c'est une vraie business.
Bon, mais est-ce qu'on peut s'attendre à voir tout ça dans un futur proche, Faye?
Le fondateur de cette société, qui a rencontré un véritable succès commercial et capitalistique, explique qu'il projette dans moins de 3 ans, il aura plus de 1000 stars de web TV portables en live et que chacun entre eux va gagner ou générer entre 3 et 5 millions d'euros de bénéfices nets. Peut-être la prochaine fois, quand vous réfléchissez pour acheter une société chinoise en bourse, vous réfléchissez peut-être d'abord, il faut mieux d'acheter, entre guillemets, une star de télé sur portable en
bon,
Chine.
Bon, Faye, on va pas se mentir, ça a l'air trop beau pour être vrai. Est-ce que vous pensez que le futur de ce business, hein, de cette télé en live via le portable, hein, Inke, est-ce que vous trouvez ça génial et est-ce qu'il n'y a pas une contrepartie à tout ça?
Oui, c'est un phénomène, car Weibo a mis 7 ans pour exploser et WeChat 5 ans. Mais pour Inke, cela a pris moins d'un an. Donc comme tout phénomène, il y a souvent un début et une fin. Je pense que cela va se calmer d'ici 6 mois ou 1 an. Mais en plus, il y a la censure, bien sûr. On est quand même dans le pur média. Donc la société Inke a été obligée d'embaucher plus de 800 personnes pour surveiller tous les contenus dans un espace de 7000 m². Impressionnant. Et comme tous les outils, c'est nous qui décidons l'usage. Et on peut, avec Inke, aussi bien apprendre ou partager les savoirs, ou tout au contraire, on peut le prendre comme un super bourrage de crâne, creux et stérile. Mais Mathieu, j'ai pensé à toi parce que toi, tu es tellement beau. Je pense que si tu ne veux plus travailler comme journaliste pour BFM, tu aurais pu venir en Chine et être une star de télé en live sur portable.
Mais c'est vous la star, Faye, en Chine. En tout cas, merci beaucoup, Faye. Hein, et restez avec nous, on retrouve maintenant la patronne de la semaine.
Chine Hebdo, Mathieu Jolivet sur BFM Business.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans cette dernière émission de Chine Hebdo de la saison. Qu'on termine hein, donc avec le patron de la semaine. Ça sera la patronne de la semaine qui vient de nous retrouver en studio. Elle est de passage à Paris puisqu'elle vit en Chine. C'est Elvie Lahourner. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Je suis très heureux de terminer cette saison de Chine Hebdo avec vous. Pourquoi? Je le dis à nos auditeurs hein, parce qu'on a longuement parlé quand vous étiez en Chine au téléphone pour préparer cette interview. Et je me suis dit, mais bon sang, quelle spontanéité, quelle fraîcheur dans cette démarche d'être parti en Chine. Et c'est ça que j'aimerais que vous nous racontiez aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, hein, donc je rappelle juste votre titre, vous avez créé le bureau d'Alten, hein, société d'ingénierie qu'on connaît bien sur BFM Business, qui est côté SBF 120. Et vous êtes parti en Chine pour créer le bureau de Pékin. Et je le cache pas non plus à nos auditeurs, vous êtes jeune, vous en voulez, vous avez une certaine ambition chevillée au corps et vous avez réussi à convaincre votre employeur de partir là-bas à Pékin créer ce bureau. Ça a commencé quand et où cette aventure?
Alors exactement.
J'ai fait un condensé.
C'est ça. C'est ça. L'aventure, elle a commencé. Alors d'abord, maintenant, j'y suis depuis un an et demi.
Un an et demi. Ouais.
La volonté, elle était double. D'abord, de partir. J'avais déjà eu des expériences à l'étranger, au Canada, en Indonésie, avec Airbus, et j'avais vraiment envie de retourner en Asie. Puis après, la question s'est posée, puisque Alten avait déjà des positions et un bureau à Shanghai et à Shenzhen, de savoir qu'est-ce que j'allais pouvoir apporter. Et j'avais vraiment envie de créer quelque chose. Donc, je suis effectivement allée proposer la création du bureau à mon PDG, qui a accepté et qui m'a suivie et accompagnée dans cette aventure. Alors,
sachant que quand vous avez fait cette démarche, est-ce que vous n'avez jamais vécu en Chine?
Non, pas du tout. du tout.
Et... Vous parlez pas le mandarin ou le cantonais couramment.
À l'époque, pas du tout. Non. Non, en fait, je suis partie en me disant que justement, il fallait partir sans préjugés.
Ouais.
Bien sûr, ne pas essayer d'appliquer littéralement tout ce qu'on avait pu apprendre en Europe. Et puis, voilà, essayer de prendre le meilleur d'une expérience. J'allais chercher une expérience professionnelle et personnelle. Très clairement, et c'est ce que j'ai trouvé professionnel, parce que je suis arrivée avec un bureau qui faisait 3 mètres carrés sans fenêtre, sans aucune personne. Ouais. Exactement, je suis arrivée toute seule, avec deux bagages.
Et vous aviez à ce moment-là une feuille de route, j'imagine.
Ce qui était très intéressant.
Où il fallait construire au fur et à mesure.
Voilà. Ce qui est très intéressant avec mon supérieur, c'est qu'on a mis en place, j'ai mis en place une stratégie de développement et une exécution derrière, et de manière totalement autonome.
Ouais.
Donc ils m'ont fait confiance. Après, bien sûr, on a discuté, en évaluant le marché ensemble, nos compétiteurs, là où finalement les clients que l'on a en Europe pouvaient aussi travailler avec nous. Mais ils m'ont fait confiance pour à la fois la partie domaine et...
Parce que c'est quoi le cœur de votre business au juste
le... C'est le support à l'ingénierie. Nous, on aide nos clients aujourd'hui sur de l'ingénierie. Alors, on travaille beaucoup pour l'auto, qui est le boom, vous l'entendez très souvent sur Chine Hebdo, ou qui a été le boom plutôt dans les années 2000-2005. Aussi, pas mal avec les secteurs énergétiques et avec l'aérospatial, l'aéronautique.
D'accord. Et résultat, par exemple, en Chine, est-ce que vous êtes amené à vous déplacer à Wuhan ou là où sont les grands constructeurs automobiles?
Oui, moi, je m'occupe plutôt du Nord. C'est pas très sexy, le Nord. C'est fait très, très froid. Mais voilà, il y a pas mal d'industries. Je travaille sur Shenyang et je suis sur Harbin.
D'accord.
Donc, effectivement, et aussi sur Shanghai, puisque mon managing director est toujours sur Shanghai. Donc, je garde aussi ce rayonnement-là. Donc, toute la partie nord de la Chine.
Bon, donc, sur place, vous êtes arrivé, pas froid aux yeux, tout à créer. Quelles ont été peut-être les plus grandes difficultés que vous avez pu rencontrer déjà?
Alors, les difficultés, bon.
Peut-être d'ordre culturel, peut-être.
Bien sûr, il y a la langue. La langue, c'est compliqué. Il faut savoir que les Chinois ne lisent pas le pinyin. Donc, le pinyin, ce sont l'utilisation de l'abécédaire latin pour traduire finalement le chinois, les caractères. Ils ne savent pas le lire. Donc, ils lisent que les caractères. Ce qui est très compliqué, du coup, puisqu'il faut soit écrire en caractères, soit parler chinois.
Ouais.
Donc, on parle chinois très rapidement. Finalement, il n'y a pas vraiment de problème. Très rapidement, on a un chinois courant pour la vie. Et on se rend compte, au niveau du travail, que ce chinois courant est finalement nécessaire, parce que les gens vont devenir beaucoup plus ouverts, beaucoup plus à l'écoute, si on montre qu'on fait cet effort de rentrer dans leur culture et de pouvoir communiquer, ne serait-ce que pour manger, déjeuner, dîner.
Donc, il y a ce barrage culturel, de toute façon, que tous les chefs d'entreprise qui viennent ici nous comptent.
Après, moi, j'étais confrontée, très, très rapidement, on va dire, à la relation client-service. Moi, j'arrive avec un service qui est complètement nouveau. Les Chinois n'ont pas l'habitude de payer pour du service, payer pour de l'intangible. Les Chinois payent pour du matériel. Et ce que l'on propose, nous, c'est de la science, c'est de la matière grise, c'est de la haute valeur ajoutée. Et il y a tout un travail d'évangélisation à faire qui est compliqué, même avec nos clients européens.
Autre point crucial, Elvie Lahourner, je rappelle, vous avez créé, vous dirigez le bureau d'Alten à Pékin depuis un an et demi. Ce que nous racontent tous les chefs d'entreprise, patrons de PME, salariés français qui sont partis là-bas, tenter l'aventure en Chine, ils nous disent que le nerf de la guerre, c'est le réseau. Le guanxi, le fameux réseau.
Le guanxi.
Alors, comment vous avez fait, vous, quand vous êtes arrivé justement sur place, un territoire vierge, tout à bâtir, tout à faire?
Le guanxi, c'est très important. Moi, je suis arrivée sans guanxi. Donc, effectivement, il a fallu le créer. Alors, très facilement, d'abord, il y a les réseaux LinkedIn qui existent, qui fonctionnent. Après, il y a les réseaux des Français. Moi, je fais moi-même partie de la French Tech, qui permet de regrouper les entrepreneurs, les cadres comme moi, qui travaillent au milieu de la tech. Donc, qui permet aussi de finalement être... Parce qu'on est tous confrontés, comme je l'avais dit, aux mêmes problématiques. Et donc, de se mettre en réseau et de pouvoir trouver des solutions ensemble. Ça se construit. Les clients aussi sont vecteurs de développement de réseau. Et puis après, c'est participer à beaucoup, beaucoup d'événements de la Chambre de commerce, de la Chambre de commerce européenne. Tous les événements sont bons à prendre. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements à Pékin, notamment. Il y a eu le GMIC longtemps, le CES à Shanghai. Il y a beaucoup d'événements.
Et donc ça vous...
C'est important. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour aussi prendre le pouls. L'innovation, vous le dites très souvent, est très très rapide, bien plus rapide, je trouve, en Chine qu'en Europe. Les gens osent, les gens n'ont pas peur de se tromper, n'ont pas peur d'essayer, et donc aller participer à ce genre de réunion, c'est extrêmement important pour être toujours en accord entre les forces vives, hein, puisque moi, mon métier, c'est aussi axé sur le recrutement, et les besoins, les futurs besoins des entrepreneurs, des industriels.
Peut-être un autre aspect qui est soulevé, alors pour le coup, par tous les Chinois, c'est la pollution à Pékin, qui est devenue un vrai problème de société. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on intègre aussi au quotidien, où on s'adapte, où vous dites, bon, de toute façon, je serai mobile, ou enfin, comment est-ce que vous le vivez, ça?
Alors, effectivement, il y a plusieurs approches. Soit on est là pour une durée déterminée, 2 ans, et donc, effectivement, on peut se dire, finalement, j'en fais fi, et comme je pars dans 2 ans. Nous, c'est pas notre cas. Enfin, moi, je suis là pour rester en Chine, ouais, et pour m'établir à Pékin. Donc, effectivement, dans la manière de vivre, on doit faire des concessions. Je suis une grande sportive, et donc effectivement, je fais du sport toujours, mais en interne, en gym, voilà, avec des filtres, et parce qu'il faut faire attention. C'est là, honnêtement, en un an, moi j'ai déjà vu la différence. C'est-à-dire que la pollution a nettement baissé. On a de belles journées comme aujourd'hui, vous pouvez avoir à Paris.
Ça. On voit le ciel bleu à Pékin.
Et puis vous savez ce qu'on dit à Pékin, hein, s'il n'y avait pas la pollution, tout le monde viendrait.
Non, mais c'est bien de voir le verre de l'eau.
Voilà, hein, si, c'est ce qu'on dit, hein, c'est ce qu'on dit à tous nos amis. S'il n'y avait pas la pollution, tout le monde viendrait.
Vous avez une équipe aujourd'hui, vous nous avez dit.
Alors j'ai 25 personnes, 6 personnes en staff et 21 ingénieurs, donc 27 en tout, placés donc chez les clients.
D'accord, vous nous avez parlé de. Vous avez recruté des jeunes.
Des jeunes chinois.
J'allais dire, tous chinois.
Tous chinois. Ouais. Moi, tout mon recrutement est 100% local. Donc je recrute pour mes clients, et effectivement ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte aujourd'hui la mutation au niveau de l'éducation en Chine n'a pas encore eu lieu, donc il y a un système éducatif et des industriels, et puis un gap entre les deux qui est encore trop grand. Donc c'est très très compliqué.
Beaucoup de chefs d'entreprise nous racontaient que justement en Chine, une des difficultés, alors qu'on connaît pas encore, qu'on espère connaître ici, qu'une des difficultés qu'ils ont, c'est qu'il y a un énorme turnover. Non pas que les salariés sont pas bien chez eux, mais c'est que en Chine, il y a tellement de boulot que finalement les salariés sont chassés un peu partout, et que quand ils arrivent quelque part, ils sont pas forcément attachés à la boîte, ils font leur taf, mais après ils ont un appel du pied, hop, et donc il y a un gros turnover, mais un turnover positif. Vous êtes confronté à cette problématique?
Énormément. Il y a un très gros turnover.
Il y a un enjeu pour capter, pour fidéliser en fait ses salariés.
Du coup, il y a tout l'enjeu du leadership, du management, qui finalement était inexistant dans les sociétés chinoises.
Et qui devient
une composante majeure. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai pour l'instant...
Parce que sinon, il faut reformer les nouveaux arrivants.
Voilà, j'ai la chance d'avoir un taux de rétention qui est plutôt bon, mais parce que j'ai appliqué des techniques de management qui sont occidentales, complètement occidentales.
Et qui fonctionne là-bas,
qui ont été adaptés, hein, puisque les équipes sont chinoises. Ça a été adapté, mais qui fonctionne parce que pour l'instant, effectivement, les équipes restent. C'est un travail de tous les jours.
Bon,
aujourd'hui, pour la petite histoire, ce matin à 5h, je les ai eus par WeChat.
Bon, en tout cas, vous l'entendez, chers auditeurs, cette spontanéité, ce souffle entrepreneurial de Elvie Lahorner. Dernière question, je la pose à tous ceux qui défilent dans le studio, mais si vous aviez un seul conseil à donner à un jeune ou moins jeune entrepreneur qui décide de partir en Chine, c'est quoi? Unique conseil,
venir avec une feuille blanche dans la tête, puisque l'idée c'est vraiment de prendre un stylo et de tout réécrire, de se réinventer. J'aime beaucoup ce mot réinventer, parce qu'il y a vraiment l'idée, on peut pas arriver et penser qu'on va vivre à l'européenne ou comme en France, qu'on va manger comme en France, qu'on va pouvoir recruter, travailler avec ses collaborateurs comme à Paris. Par contre, si on se dit qu'on va faire quelque chose qui sera différent et qu'on est capable d'accepter cette différence, alors là, on verra comment rester.
C'était le conseil du chef pour le dernier conseil de la saison, puisque à partir de la semaine prochaine, on sera en best-of pour Chine Hebdo, hein, pour cet été. Merci beaucoup, Elvie Lahorner.
Merci.
Voilà, qui dirige et a créé le bureau d'Alten à Pékin. Et puis, restez avec nous dans la seconde demi-heure de Chine Hebdo. On va parler de relations Chine-Afrique et de projets chinois d'électricité en Afrique. On va aussi retrouver notre investisseur André Lezekroug-Pietri pour sa chronique hebdomadaire, et puis le chef d'entreprise et universitaire Emmanuel Linco, qui chaque semaine étudie la relation géostratégique qu'entretient la Chine avec un pays tiers. Mais avant, les infos sur BFM Business.
Chine Hebdo, Mathieu Jolivet sur BFM Business.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans la seconde demi-heure de Chine Hebdo. Nous parlerons de Chine, d'Afrique, de projets d'électricité en Afrique. Mais avant, comme chaque semaine, on vous emmène dans les bagages d'un des investisseurs français les plus influents en Chine.
BFM Business, Chine Hebdo, ABC, Business China.
Business China avec l'investisseur André Lezecrouc-Pietri à la tête du fonds A Capital. Bonjour André.
Bonjour Mathieu.
Votre key event de la semaine autour du sommet Chine-Europe.
Oui, alors le sommet Chine-Europe qui réunit tous les ans les dirigeants des deux pays, donc essentiellement la Commission et le président et le Premier ministre chinois, auront lieu la semaine prochaine, donc les 12 et 13 juillet à Pékin cette fois-ci. Et j'ai envie de dire pas de bol, parce que à chaque fois qu'il y a ces sommets, soit les dirigeants ont la tête un petit peu ailleurs, soit ça se passe au pire moment. Et là, ça se passe en plein moment où la Commission est complètement dans les sujets du Brexit. D'ailleurs, un signe qui ne trompe pas, il n'y aura que 5 commissaires, semble-t-il, sur les 28 qui feront le voyage. Et on avait déjà eu ça l'année dernière. L'année dernière, c'était vraiment au pic de la deuxième crise grecque que ce sommet avait eu lieu. Et donc, l'essentiel des déclarations tournait autour de on a confiance en l'Europe et que l'Europe va poursuivre son développement et sa stabilité économique. Et encore, l'année d'avant, ça avait été carrément annulé puisque c'était le changement entre deux commissions. La commission Barroso qui sortait, et encore en 2013, c'était un peu la fin de la commission Barroso, donc lame duck commission, comme on dit en anglais. Donc c'est un petit peu dommage, parce que les sujets sont majeurs, c'est des sujets qui tournent autour du libre-échange, du statut d'économie de marché, oui ou non, la préparation du sommet du G20 qui se passe à Hangzhou, en Chine cette année, donc qui est très important pour les Chinois, et enfin surtout la mise en œuvre de l'accord de la COP21, où les Chinois sont évidemment essentiels et les Européens moteurs. Donc un peu dommage que le timing n'aide pas aux relations Chine-Europe.
Allez, on continue avec votre key data 38%.
Oui, alors c'est vraiment l'événement de la semaine, cette longue route de Midea pour l'acquisition de KUKA. Je vous rappelle l'enfant chéri de la robotique en Allemagne. Finalement, le premier actionnaire, la société Voith, a décidé de vendre ses parts cette semaine à Midea, qui se retrouve donc maintenant, ils avaient déjà 13%, ils se retrouvent à la tête de 38%, donc ils sont quasi assurés d'avoir le contrôle de la société. Ils ont pris des engagements qui se résument en deux chiffres. Un, 7 ans, donc pendant 7 ans, en deux points essentiels. Un chiffre qui est, pendant 7 ans, ils s'engagent à garder le siège social jusqu'en 2023 en Allemagne, ce qui par ailleurs me semble un petit peu étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans 8 ans ils déménagent. C'est un peu surprenant. Et l'autre chose, ils s'engagent à garder la société cotée en Allemagne, donc en garder la spécificité allemande de KUKA. Mais en tout état de cause, c'est une grande victoire pour les actionnaires qui ont empoché un joli magot. Je vous rappelle, c'est 3 fois la valorisation d'il y a 24 mois à peine. Une société qui valait 1,5 milliard en 2014 et qui est vendue maintenant 4,5 milliards, 4,6 milliards. Et évidemment, c'est une grande victoire pour Midea qui, grâce à ça, poursuit sa transformation de, on va dire, producteur de produits blancs relativement bon marché, ils font un saut quantique vers les technologies les plus avancées en termes de robotique et d'usines futures. Donc vraiment un événement très 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 important.
Allez, on termine André avec votre key trend de la semaine autour de cette cacophonie européenne sur le Brexit.
Oui, alors franchement, vous me connaissez, je suis un Européen convaincu. Je regrette déjà beaucoup que sur le Brexit, la semaine dernière à Berlin déjà, il y avait eu notre ministre des Affaires étrangères qui avait dit il faut aller très vite dans le calendrier, et le soir même la chancelière dans la même ville dit oulala, pas de panique, ne réagissons pas à l'émotion et n'imposons pas de calendrier aux Anglais. Eh bien, cette même cacophonie même pas européenne, franco-allemande, ben, elle se poursuit à Pékin, où l'ambassadeur d'Allemagne a mis les points sur les i sur, dans une déclaration à China Daily, je crois, disant ne réagissons pas sous le coup de voilà des événements. Il faut aller vite, mais nous n'imposerons pas de calendrier aux Anglais. Ce qui, vu du côté chinois, donne l'impression d'une grande disparité de vue en Europe. Il n'est pas fait pour améliorer, en tout cas, l'image d'une Europe solide et qui sait où elle va. Et ça, c'est vraiment dommage.
Merci beaucoup, André Lezocroupe-Pietri.
À très bientôt.
Et on vous souhaite un bel été. On vous retrouve avec grand plaisir dès le premier week-end de septembre pour la reprise d'une nouvelle saison de Chine Hebdo, où vous continuerez à prendre le pouls pour nous du business entre l'Europe et la Chine. Merci, André.
À très bientôt, Mathieu. Et je suis sûr que la Chine ne va pas s'arrêter pendant cet été. On aura plein de choses à vous dire à la rentrée.
Exactement. Et restez avec nous tout de suite. On va filer en Afrique. Tiens, on va parler de Chine-Afrique.
Chine Hebdo, l'économie made in China sur BFM Business.
Et c'est David Benazeraf qui vient de nous retrouver en studio. Bonjour.
Bonjour.
Pour nos fidèles auditeurs, vous connaissez David Benazeraf qui venait régulièrement nous parler de Chine-Afrique lorsqu'il était doctorant et aujourd'hui qui est responsable du programme Chine pour l'Agence internationale de l'énergie. Et vous venez de publier un rapport sur le poids de la Chine dans le secteur énergétique en Afrique, et en Afrique subsaharienne notamment.
Tout à fait. En effet, il y a deux ans maintenant, l'Agence internationale de l'énergie a publié un rapport spécial sur l'Afrique, sur l'ensemble des problématiques énergétiques africaines. Et c'était un rapport spécial du World Energy Outlook. Et là, nous publions une étude plus précise sur le rôle des entreprises chinoises dans le secteur électrique en Afrique subsaharienne, puisque ces entreprises jouent un rôle particulièrement important dans la région.
Et alors aujourd'hui, on va commencer par élargir la focale et ensuite on va faire un zoom avec vous. Mais si on regarde la part de marché chinoise en Afrique, elle représente quoi?
Alors voilà, en termes de capacité électrique installée par les Chinois au cours des 5 dernières années, les entreprises chinoises ont contribué à 30% des nouvelles capacités en Afrique subsaharienne. Et ce qui est déjà important, et si on enlève l'Afrique du Sud, qui a un marché quand même spécifique dans la région, donc si on prend toute l'Afrique, sans Afrique du Sud, sans Afrique du Nord, la part des Chinois monte à 46%, c'est-à-dire presque 1 mégawatt sur 2 est aujourd'hui construit par les Chinois.
Qu'est-ce qui explique cette forte progression justement de la présence chinoise dans ces projets électriques en Afrique? Est-ce que c'est déjà concrètement, ça se passe comment? Il y a des appels d'offres sur place en Afrique qui sont de plus en plus nombreux, et est-ce que les Chinois ont une recette particulière pour remporter ces appels d'offres?
Alors les entreprises chinoises sont aujourd'hui donc plus actives et remportent plus de marchés que des entreprises de tous les autres pays, puisqu'elles sont donc en tête. Et là, si on regarde en nombre de projets remportés par les entreprises chinoises, au cours des 5 dernières années, le nombre de projets équivaut aux 4 pays suivants, qui sont en l'occurrence États-Unis, France, qui arrive deuxième, États-Unis, Italie et la Finlande, qui sont la part de ces 4 pays en nombre de projets, et donc équivalente au nombre de projets remportés par les entreprises chinoises. Parce que les entreprises chinoises ont une recette particulière, c'est...
Le prix peut-être déjà, non? Est-ce qu'ils ont... Il y a une différence sur le prix?
Alors en effet, les entreprises chinoises peuvent être compétitives en termes de coûts, même si les coûts pratiqués, enfin les coûts de construction de ce genre de centrales électriques en Chine sont quand même bien moins élevés que ceux en Afrique, donc les bas coûts chinois ne peuvent pas être totalement dupliqués en Afrique. Néanmoins, les entreprises chinoises restent attractives pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'elles bénéficient d'un soutien important du gouvernement chinois, puisque ces projets sont intégrés et les entreprises apportent des solutions clés en main, pas seulement la construction des projets, mais également les études préliminaires, également la facilitation de contact avec les banques chinoises pour les financements, gestion de la dette. Donc c'est une approche vraiment intégrée.
C'est une approche globale, et surtout derrière, ils ont la sécurité financière de Pékin derrière qui assure tout le projet de A à Z, quoi. Enfin. C'est une garantie financière.
80% des projets réalisés par les entreprises chinoises sont financés par des prêts publics chinois, donc c'est des prêts d'aide au développement. et les entreprises chinoises de plus en plus aussi candidatent sur des projets financés par d'autres bailleurs internationaux comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Et donc on a quand même une diversification aujourd'hui des modèles de financement.
Avant de revenir après sur les projets plus précis, David Benazeraf, pour bien comprendre l'enjeu de cette étude que vous portez ici pour l'Agence internationale de l'énergie, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une course à l'électrification en Afrique?
Alors il y a un réel besoin, un besoin urgent et pressant, puisque l'électricité est absolument essentielle pour le développement économique et pour le niveau de vie des populations. Aujourd'hui, il y a 635 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité. C'est plus de la moitié de la population du continent. Et d'ici à 2040, même si le nombre de personnes qui ont accès à l'électricité va augmenter, la part relative des personnes n'ayant pas accès à l'électricité va aussi continuer à augmenter.
Donc derrière, il y a un enjeu à tous les niveaux. Il y a un enjeu humanitaire, un enjeu économique, un enjeu aussi politique. On voit en France Jean-Louis Borloo qui en a fait son nouveau combat, où il jette toutes ses forces justement dans la course à l'électrification en Afrique.
En effet.
Là, je fais une petite parenthèse, mais est-ce que ce type d'initiative d'un ancien politique, ou en tout cas en France, peut aider la France à remporter un peu plus de parts de marché et à l'étalonner la Chine pour remporter les appels d'offres sur place?
Toutes les initiatives en faveur de l'électrification sur le continent sont évidemment bienvenues. Elles sont multiples, notamment le programme des Nations Unies Sustainable Energy for All, qui est le programme phare des Nations Unies. On peut citer aussi l'initiative de Barack Obama Power Africa, les Japonais, les Indiens, les Chinois.
Ouais, donc, tout le monde a son plan énergie.
Les projets, il n'y a pas que les Chinois. En effet, il y a énormément de programmes et d'initiatives en faveur de l'accès à l'électricité.
Et aujourd'hui, David Benazeraf, est-ce que les Chinois, ils se distinguent par déjà dans ces appels d'offres où ils proposent une solution intégrée complète, on va dire. Mais est-ce qu'ils se distinguent aussi dans, je ne sais pas, moi par exemple sur leur qualification dans l'éolien, dans l'hydroélectricité, est-ce qu'ils ont une réputation particulière?
Alors quelque part, les projets réalisés par des entreprises chinoises en Afrique reflètent d'une certaine manière le mix énergétique de la Chine, et donc les domaines où les Chinois sont les plus forts, c'est avant tout l'hydroélectricité, puisque 49% des capacités installées par les Chinois sont dans le domaine hydroélectrique.
Ouais. On a tous en tête le barrage des Trois Gorges notamment.
Par exemple, et donc la Chine au cours des 5 dernières années a construit 20 barrages. A finalisé 20 barrages en Afrique et 20 autres barrages sont en cours de construction actuellement. Les Chinois construisent 68% des barrages sur le continent africain.
On va marquer une courte pause, hein, David Benazeraf. On va continuer avec vous de disséquer l'ambition énergétique de la Chine en Afrique, hein, en particulier sur l'électricité. À tout de suite.
Chine Hebdo, Mathieu Jolivet sur BFM Business.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans cette dernière partie de Chine Hebdo. Nous sommes avec David Benazeraf qui est responsable du programme Chine pour l'Agence internationale de l'énergie. David Benazeraf, vous avez publié, hein, l'Agence internationale de l'énergie, un rapport, hein, qui fait un zoom sur la part de la Chine dans le secteur de l'électricité en Afrique. Derrière, il y a un enjeu faramineux, vous nous le disiez, puisque vous nous rappeliez ce chiffre, où plus de la moitié de la population du continent aujourd'hui n'a pas accès à l'électricité, hein. Et on voit que c'est devenu un enjeu presque planétaire avec tous les pays qui frappent à la porte du continent africain avec leur propre plan énergétique, et la Chine est très très bien placée. C'est intéressant, vous nous disiez juste avant qu'on marque cette pause, David Benazeraf, que finalement la Chine fait un copier-coller, enfin en tout cas a chez elle en ce moment, est en pleine phase de transition énergétique pour essayer de moins dépendre du charbon, avec une société notamment très très sensible à la pollution des villes, et donc eux-mêmes sont en plein mix énergétique et donc ont un modèle et un savoir-faire qu'ils apprennent là quasiment en temps réel et qu'ils vont pouvoir proposer après aux Africains.
Alors, en effet, la Chine est, comme vous l'avez dit, en pleine transition énergétique avec une nécessité de réduire la part du charbon, notamment, de développer les renouvelables, ce que font les Chinois, puisqu'au passage, on pourra en reparler, mais la Chine est leader aujourd'hui en termes de capacité installée dans le domaine du solaire et de l'éolien. Et la Chine a donc des compétences et une expérience aussi, notamment dans l'hydroélectrique et dans les centrales électriques au charbon et à gaz, et donc qu'elle exporte aujourd'hui en Afrique.
Leader notamment du solaire, j'allais dire aux grandes dames parfois de Bruxelles, hein, puisqu'on sait qu'il y a eu des confrontations entre Bruxelles et la Chine sur les prix pratiqués justement et les subventions étatiques.
Alors ce projet en l'occurrence se focalise sur les entreprises qui construisent les projets et non pas sur les équipementiers.
D'accord. Donc,
voilà,
d'accord.
L'approche des entreprises de construction d'infrastructures électriques.
D'accord.
Et ces entreprises ont besoin de marchés à l'étranger puisque on observe un ralentissement de la croissance économique en Chine et une baisse relative de l'augmentation des besoins en électricité dans le pays. Donc l'Afrique constitue en effet, comme d'autres régions du monde, un marché pour ces entreprises.
Et donc on se retrouve concrètement, vous nous parliez de l'éolien, et bien là la Chine est en concurrence frontale avec un équipementier français qu'on connaît bien d'ailleurs sur BFM Business, c'est l'entreprise Vernet, pour équiper les hauts plateaux éthiopiens d'éoliennes. Et là-dessus aussi, la Chine a un savoir-faire.
Alors en effet, l'Éthiopie a 100% de son électricité produite à partir de renouvelables, essentiellement hydroélectricité, et puis puisqu'on dit que l'Éthiopie est le château d'eau de l'Afrique de l'Est, et en parallèle, il développe aussi un peu de géothermie et surtout de l'éolien. Et il y a deux grosses fermes éoliennes dans le pays actuellement, une en effet construite par des entreprises françaises et l'autre par une entreprise chinoise. Qui est une filiale de Power China, qui est une des majors dans le secteur en Chine.
Il y a aussi un projet de centrale biomasse, vous me disiez, assez important en Éthiopie.
Il y en effet des
centrales chinoises.
Exactement. Il y a aussi des projets plusieurs projets. Un projet dans la production d'électricité à partir des déchets de la capitale, Addis Abeba, et un projet de biomasse à partir de la canne à sucre, puisqu'en brûlant les résidus de canne à sucre, on peut produire de l'électricité. Cette électricité permettra de faire tourner le moulin et l'usine de canne à sucre. Sucre qui sera exporté en Chine, puisqu'aujourd'hui ça coûte moins cher de produire du sucre en Éthiopie qu'en Chine. Et l'électricité produite servira aussi à alimenter les villages alentours. Donc c'est un projet aussi là aussi intégré.
Et là aussi c'est pensé après l'importation l'importation de matières premières ou à l'origine en acier. Je veux dire tout est lié ou c'est
alors
complémentaire?
C'est une approche vraiment intégrée puisque c'est la même entreprise qui réalise l'ensemble et les exportations de sucre sont aussi un moyen de sécuriser les prêts de l'Exim Bank en l'occurrence, banque chinoise qui octroie des prêts pour l'aide au développement. Et en effet, c'est voilà, on voit aussi la dimension plus large de l'importance pour la Chine d'avoir des marchés à l'étranger. Et en l'occurrence sur le sucre étant, enfin la production de sucre aujourd'hui en Chine est très subventionnée.
Et David Benazeraf, en termes d'image, comment ça se passe sur place? Il y a quelques années, vous nous en aviez d'ailleurs parlé. Hein, il y a quelques années, les projets de construction chinois en Afrique commençaient à être vus d'un mauvais œil. Ils avaient une mauvaise réputation parce que ils arrivaient avec leurs ouvriers, leur propre nourriture, ils construisaient un hôtel ou un chantier et ils repartaient chez eux, il n'y avait pas un emploi local créé. Je caricature peut-être un peu, mais disons qu'il y avait eu en tout cas des manifestations d'hostilité au niveau des populations locales où œuvraient des chantiers chinois. Et c'était remonté jusqu'au plus haut niveau à Pékin où c'était, oula, faut faire attention, c'est notre image qui est en jeu. Est-ce que là-dessus, ça a changé un peu?
Alors, cette étude se focalise sur la dimension électricité et sur ce qui
est... Oui, sorti de votre étude.
Donc c'est vrai qu'on dépasse un peu le cadre de l'étude. C'est pas quelque chose qu'on a regardé. On n'a pas étudié projet par projet. Ouais. Et les situations sont probablement très différentes d'un pays et d'un projet à l'autre.
Oui, oui, non, mais je rappelle en plus que c'est pas votre domaine non plus. Quel est aujourd'hui le projet qui retient le plus votre attention en Afrique?
Le projet qui retient le plus notre attention, c'est il y a beaucoup de projets. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les Chinois contribuent à rendre plus vert le mix énergétique africain, puisque 56% des capacités qui sont construites par les Chinois proviennent du renouvelable, donc essentiellement hydroélectrique, on l'a dit, mais aussi un peu de solaire, de l'éolien, biomasse, et donc finalement les entreprises chinoises peuvent être un moyen d'accélérer la transition énergétique en Afrique.
Bah écoutez, en tout cas, nous, on conseille à tous nos auditeurs d'aller, s'ils veulent aller plus loin, d'aller jeter un œil sur votre étude qu'on retrouve sur le site, j'imagine, de l'Agence internationale de l'énergie.
L'étude peut être téléchargée depuis le site aie.org.
Voilà, et qui est titrée exactement, votre étude?
Alors le titre en anglais, c'est Boosting the Power Sector in Sub-Saharan Africa, donc The China's Involvement. Donc en français, on pourrait dire accélérer
le secteur énergétique en Afrique subsaharienne.
Tout à fait. Le rôle de la Chine.
Et le rôle de la Chine, bien sûr. Merci beaucoup, David Benazeraf. Je rappelle, vous êtes responsable du programme Chine à l'Agence internationale de l'énergie. On vous souhaite un bel été.
Un bel été à vous aussi.
Et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures chinoises. Et on termine cette dernière émission de la saison de Chine Hebdo avec votre chroniqueur et universitaire Emmanuel Linco.
BFM Business, Culture Chine.
Culture Chine avec votre chroniqueur et universitaire Emmanuel Linco, aussi chef d'entreprise à la tête de Signes et Stratégies. Chaque semaine, il étudie pour vous la relation géostratégique qu'entretient la Chine avec un pays tiers. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Mathieu.
Ouh, c'est exotique aujourd'hui, hein.
Ouais, on vous emmène en Océanie, dans les îles Fidji notamment.
Et alors, quels enjeux pour la Chine là-bas?
En fait, ils sont considérables parce que c'est l'une des rares régions avec les Caraïbes où l'on peut observer les rivalités entre les deux Chines, donc la République populaire de Chine, Pékin, et la République de Chine, Taïwan précisément.
Et alors là-bas, la Chine n'est plus considérée comme Chine légale depuis des décennies, hein.
Alors ça dépend où, il faut dire que c'est l'une des rares régions où Taïwan peut encore s'enorgueillir d'un certain nombre de reconnaissances diplomatiques. Et il faut rappeler qu'historiquement, donc, Taïwan a connu un camouflet diplomatique énorme en 1964 lorsque la France du général de Gaulle a reconnu Pékin aux dépens donc de Taïwan. Et depuis lors, donc, effectivement, il y a quelques micro-États de toutes petites îles qui continuent à reconnaître Taïwan, et notamment l'île de Nauru, qui ne dit pas grand-chose sans doute à nos auditeurs, mais aussi l'île de Kiribati, mais qui sont des enjeux stratégiques très très importants, tant évidemment pour la Chine que pour Taïwan.
Autre précédent diplomatique douloureux pour Taïwan, je crois que c'était l'ONU aussi, hein, qui n'avait pas...
Absolument, en 1971, dans la continuité justement de ces reconnaissances diplomatiques vis-à-vis de la République populaire de Chine, eh bien, Taïwan a été évincé du Conseil de sécurité de l'ONU. Cependant, donc, il y a à peu près une vingtaine d'États aujourd'hui encore à reconnaître Taïwan comme seule Chine légale, et cette partie du monde, l'Asie-Océanie, est donc un théâtre de rivalité privilégié, et notamment à la hauteur des îles Fidji, qui, elles, ont reconnu précisément la République populaire de Chine et accueilli en 2014 le président chinois Xi Jinping.
Et alors, quelle réflexion cette région vous inspire-t-elle, Emmanuel?
Eh bien, clairement, pour la République populaire de Chine, il s'agit de dépasser la fameuse barrière de corail, aller au-delà, justement, de ce couloir d'étranglement que représente le Japon, Taïwan, etc., et se rapprocher, évidemment, de l'île de Guam, là même où se trouvent les dispositifs stratégiques américains.
C'est ça, parce que les Fidji et autres îles papouasies autour, en soi, on va dire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus stratégique, mais c'est plus le symbole d'une Chine qui dépasse la barrière de corail.
Exactement. Exactement. D'accord. Et en même temps, ça peut servir de point d'appui, d'observation satellitaire et autres. Et surtout, ce que l'on peut observer, c'est que jusqu'à l'élection de Ma Ying-jeou, le président taïwanais en partance, eh bien, il y avait finalement une sorte de statu quo entre les deux Chines. Mais depuis, cette région du monde, comme celle des Caraïbes ou de l'Afrique, d'ailleurs, nous en parlerons dans une prochaine émission, fait l'objet de nouveau de rivalités très importantes sur le plan diplomatique entre les deux Chines.
Merci beaucoup Emmanuel Lincourt. On vous souhaite un très très bel été, hein, puisque à partir de la semaine prochaine, nous aussi dans Chine Hebdo, on se met en programme best-of estival. Hein. On a sélectionné pour vous le meilleur de Chine Hebdo entendu cette année pour... à écouter, à podcaster hein, sans modération, que vous soyez sur un bateau ou sur la plage ou je ne sais où. En tout cas, on vous souhaite un très bel été chinois et on vous retrouve à partir du premier week-end de septembre pour de nouvelles aventures chinoises sur BFM Business, bien sûr.